Studio Tamani, voici les informations en français.
Après un premier report, le référendum constitutionnel se tiendra finalement le 18 juin prochain. L'annonce a été faite ce vendredi matin par les autorités. La police et la justice sont les deux secteurs les plus touchés par la corruption, selon le dernier rapport Malimètre des organisations de lutte contre le phénomène, invite l'État à plus de fermeté. La journée internationale de la sage-femme a été célébrée ce vendredi 5 mai. Le thème retenu est « Ensemble, à nouveau, de l'évidence à la réalité ». Voilà pour le sommaire de cette édition. Dans un instant, les détails. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal présenté par Hamsetou Touré. La nouvelle date du référendum constitutionnel est désormais connue. Le scrutin se tiendra le 18 juin prochain. L'annonce a été faite ce vendredi matin à la télévision nationale par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation. Selon Abdoulaye Maïga, la campagne électorale pour le référendum s'ouvrira le 2 juin pour prendre fin le 16 juin. Après un premier report, certains partis politiques accueillent cette nouvelle date avec réserve. Ali Cissé.
C'est dans un flash spécial que le ministre porte-parole du gouvernement a annoncé la nouvelle date du scrutin référendaire. Celui-ci se tiendra le dimanche 18 juin 2023. Selon Abdoulaye Maïga, cette nouvelle date vise à respecter les engagements que les autorités de la transition ont pris.
Donc la nouvelle date du 18 juin prend en compte un certain nombre de réformes qui ont été menées, des dispositions prioritaires qui ont été prises entre le mois de mars jusqu'à présent. Cette nouvelle date traduit à la fois le respect de la parole donnée, également l'engagement du chef de l'État à respecter les recommandations des assises nationales de la refondation.
Du côté du parti Yelema, l'annonce du ministre est accueillie avec prudence. Ses responsables espèrent que cette convocation ne sera pas une date de trop. Hamidou Doumbia, secrétaire politique du parti Yelema.
On ne peut que s'en tenir à ce que le gouvernement a dit. Dès lors qu'au moment où ils ont parlé de report pour la première fois, nous on ne peut qu'observer et prier pour que les conditions et toutes les conditions soient réunies pour une consultation référendaire transparente et dans les conditions idoines.
Selon le ministre Abdoulaye Maïga, deux bulletins seront à la disposition des électeurs pour ce référendum. Un blanc pour le oui et un rouge pour le non. Le ministre a aussi précisé que les forces de défense et de sécurité voteront par anticipation conformément à la loi électorale.
La date du 18 juin 2023 est tenable pour la tenue des prochaines élections référendaires si le gouvernement prend toutes les dispositions nécessaires afin que tous les Maliens puissent avoir leur carte d'identité biométrique. C'est du moins ce qu'affirment les responsables du pôle d'observation citoyenne du Mali, POSIM. Pour son président, l'annonce de cette nouvelle est salutaire. Dr Ibrahima Sango, président du POSIM, est joint par Ali Cissé.
Le référendum était prévu le 19 mars, ça n'a pas pu avoir lieu. On a su que ça a lieu le 18 juin, pour nous c'est une très bonne chose, ça respecte les dispositions légales en la matière. Maintenant, la communication doit suivre pour la vulgarisation du texte du référendum avant la tenue du référendum le 18 juin 2023. C'est le gouvernement qui a promis que désormais les élections du Mali c'est sur la base de la carte nationale d'identité biométrique. Maintenant, avec la carte nationale d'identité biométrique, les cartes ne sont plus disponibles dans les bureaux de vote. Donc si le gouvernement a pris la responsabilité de convoquer le collège électoral pour le 18 juin, le gouvernement va prendre les dispositions pour que tous les Maliens, tous les électeurs du moins puissent avoir leur carte d'électeur. Cela va nécessiter des équipes de distribution des cartes d'identité biométrique dans toutes les localités du Mali.
Réagissez à toutes ces informations sur les réseaux sociaux à travers notre page Facebook ou notre compte Twitter. Je l'annonçais dans les titres, la police est le secteur le plus touché par la corruption au Mali, suivi de la justice. Ces révélations ont été faites par l'enquête Malimètre de la Fondation Friedrich Ebert, publiée mercredi dernier. Des organisations de la société civile invitent les autorités à plus de fermeté dans la lutte contre la corruption. Moussa Malé Sissoko.
Les résultats de ce sondage montrent que 81% des Maliens sont d'accord que la corruption est galopante. Les citoyens de Bamako, Yoroso et Sikasso déplorent cette situation.
D'abord, elle a plusieurs dimensions. Mais celle qui nous fatigue le plus et qui fait que notre pays n'avance pas, la corruption de l'élite.
Mettre les gens dans les conditions, comme ça peut lutter contre la corruption.
C'est une action citoyenne qui peut résoudre les phénomènes de corruption.
Ahmed Sekou Diallo est le vice-président de la coalition des organisations de la société civile pour la lutte contre la corruption et la pauvreté. Il préconise plus de rigueur dans l'application des textes.
Tant que ces rapports-là du bureau du vérificateur, de l'OCLE et autres ne sont pas mis en application, on ne peut pas assister à un recul de la corruption. Il faut l'autorité, une fermeté de l'État, que la justice fasse son travail, des sanctions exemplaires soient données.
Outre la police et la justice, d'autres domaines sont concernés par la corruption. Il s'agit de la santé, la mairie et la douane.
Autre titre de ce journal, ensemble à nouveau, de l'évidence à la réalité. C'est le thème international de la 6e édition de la Journée mondiale de la sage-femme célébrée du 5 au 6 mai 2023 au CICB. La commémoration de cette journée a pour objectif de renforcer le rôle de la sage-femme dans la lutte contre la mortalité maternelle et infantile et mettre aussi l'accent sur les innovations scientifiques relatives à la santé reproductive. Les détails avec Diara Faskoy.
Pour Sambasso, représentant de l'Institut national de la santé publique, le rôle de la sage-femme est important dans le maintien de la santé reproductive et l'élimination des causes évitables de la mortalité maternelle, néonatale et juvénile.
Que vous soyez riche ou pauvre, vous commencez toujours par un accoucheur. On ne peut pas parler de santé de la reproduction, la prévention, soins de santé maternelle et infantile, sans parler de sage-femme.
Pourtant, malgré ces efforts, le taux de répartition des sages-femmes au Mali est en deçà de la norme, a indiqué Mme Yalkoui Awagindo, présidente de l'Association des sages-femmes du Mali.
Le Mali est encore très loin de la norme définie par l'OMS, une sage-femme pour 5000 femmes en âge de procréer. L'épineux problème de répartition géographique des sages-femmes entre le milieu urbain et le milieu rural et le manque de personnel qualifié dans certaines parties du Mali demeure une réalité.
Une étude de l'Agence directrice des Nations Unies en charge des questions de santé sexuelle et reproductive, UNFPA, a montré que 90% des sages-femmes au Mali sont basées à Bamako, alors que 60% des femmes en âge de procréer sont en milieu rural.
Sport football, le championnat national de football va redémarrer. L'amicale des arbitres du Mali et la FEMAFOOT ont trouvé un compromis. Au même moment, des matchs en retard de la 16e journée du championnat national ont été programmés. Le résumé avec Juliette Koulibaly.
Selon le président de l'Amicale des arbitres de football du Mali, la Fédération malienne de football a donné des garanties pour assurer la sécurité des arbitres avant, pendant et après les matchs. Toutefois, Ousmane Sidibé affirme que l'Amicale déposera dans les jours à venir un cahier de doléances à la Commission centrale des arbitres. Pendant ce temps, des matchs en retard de la 16e journée du championnat national ont été programmés. Ce dimanche, ASCO sera opposé à El Seba au stade Mamadou Diarra H de Koulikoro à 16h15 et au même moment, Afé affronte les 11 créateurs au stade Moussa Diakité. Le lundi 8 mai, COB va se mesurer à l'US Bougouni à partir de 16h15. Au même moment, Binga FC sera face à l'USFAS. Le mardi 9 mai, il y aura deux rencontres, AS Police, US Kita et AS Real contre Yélin Olympique.
À présent, la rubrique « On en parle » et nous restons toujours dans la mouvance de la célébration de la Journée internationale de la sage-femme. Elle est aussi célébrée dans les régions. À Yoroso, Kita et Bafoulabé, des hommes et femmes saluent le noble travail de ces braves femmes. Cependant, des patientes exhortent la nouvelle génération à emboîter le pas aux anciennes. Leur réaction dans la rubrique « On en parle » réalisée par Adama Amadou Aïdara avec le concours de nos correspondants.
Les gens de Maïna ont eu la chance d'avoir des bonnes sages-femmes. Elles prennent soin des femmes enceintes et même les femmes qui sont en travail.
Elles s'occupent bien de nous.
Elles sont très courageuses, surtout pendant la nuit.
Les sages-femmes occupent une place importante car elles suivent de façon permanente les femmes enceintes.
Celles qui s'occupent de moi, généralement font bien leur travail. Elles sont souriantes et elles font tout pour que la femme et l'enfant se portent bien.
Les jeunes sages-femmes ne sont pas comme celles d'avant. Je les encourage à s'améliorer.
L'actualité de la semaine a été marquée par des manifestations pour le départ de la MINUSMA du Mali. Si certains Maliens sont pour son départ, d'autres militent pour son maintien. La Journée internationale de la liberté de la presse, le rapport annuel de la Fondation Friedrich Ebert dénommé Malimètre ont été également des sujets phares de la semaine. Le point avec Sita Sidibé.
Au Mali, la question du renouvellement du mandat de la MINUSMA continue de susciter des réactions au sein de l'opinion publique. Les avis restent partagés tant du côté des défenseurs des droits de l'homme que des organisations de la société civile. Mais pour le président de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, la présence ou le départ de la MINUSMA ne change rien à l'obligation du Mali de respecter ses engagements en matière de droits humains. Autre actualité de la semaine, c'est la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse ce mercredi 3 mai par les professionnels du secteur. Une occasion pour la Maison de la presse de faire le point sur les cas de violation des droits des journalistes. Enfin, on ferme cette rubrique par le dernier rapport de la Fondation Friedrich Ebert dénommé Malimètre. Ce document rapporte qu'une bonne partie des Maliens soutient la transition en cours dans les pays. Il met aussi en exergue les défis majeurs des Maliens, notamment la lutte contre l'insécurité, le chômage des jeunes, l'insécurité alimentaire ou encore la corruption.
Nous recevons Mariam Koulibaly pour l'introduction du Grand Dialogue. Bonsoir Mariam, alors de quoi parle le Grand Dialogue de ce soir?
Éducation à la citoyenneté, quelle place dans la refondation du Mali? C'est le thème du Grand Dialogue d'aujourd'hui. Nos invités sont Ousmane Koulibaly, consultant en développement à Koutiala, Ibrahima Diallo, dit chef Golden, membre de l'Association des pionniers du Mali, et Koniba Diara, professeur de sociologie et DCM au lycée El Bad. Merci.
Merci Mariam. Vous pouvez réécouter toutes ces informations sur notre site web au www.studiotamani.org ou en appelant gratuitement sur la plateforme Viamo au 37 321. C'est donc la fin de ce journal. Merci de votre constante fidélité. Restez à l'écoute dans un instant, le magazine Économie. Au Mali, il existe à ce jour 3 cimenteries. La première a été ouverte en 2012, alors que la dernière date de 2019. Selon la Direction nationale de l'industrie, ces usines emploient près de 6 000 personnes à temps plein. Elles produisent environ 2 millions de tonnes de ciment par an et apportent à l'économie nationale un budget estimé à 100 milliards de francs CFA. Malgré tout, la production de ces cimenteries est menacée sur le marché souligne la Direction nationale de l'industrie. C'est le sujet du magazine de l'économie réalisé par Lalé Tangara.
CIMAF ou encore CIMA d'Afrique est l'une des 3 sociétés de production de ciment au Mali. Avec près de 300 employés, cette cimenterie produit par an 500 000 tonnes. Directeur commercial et marketing de CIMAF, Moussa Dianko nous parle ici de quelques difficultés auxquelles la cimenterie est confrontée.
La difficulté principale d'abord, c'est l'électricité. La demande du ciment, premier semestre, le ciment est bien demandé. Et pendant ce temps, l'électricité est très sollicitée par l'usine. Chaque année, c'est pendant cette période qu'il y a les délestages aussi dans notre pays.
Il est 10h passé ce vendredi. Nous nous retrouvons entre les moulins et machines de Diamond Cement, une autre cimenterie du Mali, située entre Dio et Diago, à 30 km de Bamako. Ici, plus d'une centaine d'employés s'activent, certains sur des machines, d'autres dans des remorques pour le chargement. Avec une production d'1 million de tonnes par an, Diamond Cement est la plus grande cimenterie en termes de production. Comme CIMAF, elle est aussi confrontée à un problème d'électricité. Mais l'une des plus grandes menaces sur ces cimenteries est la concurrence que leur impose le ciment importé d'autres pays de la sous-région. Baba Djabi, directeur national de l'industrie.
Il y a d'abord l'aspect devise. Vous savez, je vous ai parlé de l'importation frauduleuse
en grande quantité des ciments qui viennent du Sénégal, du Nigeria. C'est comme ils exportent les CFA maliens vers ces pays. Donc ça, c'est un gros problème du point de vue national.
La préférence des Maliens pour le ciment importé est de plus en plus constatée. Des revendeurs expliquent cette situation par le coût plus abordable de celui-ci. Ousmane Koulibaly, vendeur de ciment à Ségou.
Moi, je vends les ciments burkinabé, Simanso, avec les ciments maliens, avec Sahel pour le Sénégal. Mais actuellement, c'est les ciments burkinabé qui massent. Ça, c'est moins cher que les autres ciments. Parce que ça, on vend la tonne à 110 000. Les ciments maliens, bon, on ne peut pas vendre à 110 000. Parce que nous, mais on prend à 105 000.
Au Mali, des clients expliquent cette importation du ciment de l'étranger par l'insuffisance de la production locale. Un argument qui ne tient pas, selon Baba Djabi, directeur national de l'industrie.
Non, on ne peut pas dire que la quantité produite est suffisante, mais il y a beaucoup d'autres aspects qui rentrent en ligne de compte. Tant qu'il y a des importations de ciment qui sont constatées, qui sont autorisées, on peut dire que la quantité peut-être produite par nos unités n'est pas suffisante. La majorité de ces ciments, ils viennent du Sénégal, hein, du Burkina, du Nigeria. Il y a tout un arsenal de fraude qui est organisé pour essayer de déséquilibrer nos cimenteries.
Pour les responsables de ces cimenteries, l'apport du ciment à l'économie peut être beaucoup plus important si les autorités prenaient certaines dispositions pour le secteur industriel malien. Une position aussi défendue par le directeur national de l'industrie. Il demande la régulation de l'importation du ciment et la baisse du coût d'électricité, ce qui rend le prix du sac de ciment élevé. C'est la fin de ce magazine Économie présenté par Lale Tangara.